Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Bonjour Julien.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons aujourd'hui Jean-Louis Guigou. Bonjour Jean-Louis Guigou.
Bonjour, bonjour.
Jean-Louis Guigou, vous êtes depuis 2015 le président d'une institution relativement peu connue qui s'appelle l'IPMED, que nous allons chercher à faire un peu connaître à travers vous. L'IPMED, c'est l'Institut de Prospective Économique du Monde Méditerranéen. Il y a un monde économique méditerranéen ?
Il y a une économie du monde méditerranéen, elle se construit. Elle se construit. IPMED, c'est un institut de prospective, c'est-à-dire que nous cherchons à découvrir les tendances lourdes, qu'est-ce qui va se passer, des phénomènes à bas bruit, mais qui vont prendre de l'ampleur. Et il ne fait aucun doute que les pays du nord de l'Afrique, de l'Égypte au Maroc, tombent dans la sphère d'influence économique de l'Europe. Comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, c'est maintenant le Sud qui rentre dans cette mouvance.
Alors vous êtes président de l'IPMED depuis 3 ans maintenant ?
Depuis 3 ans.
Mais cet institut a été créé il y a plus longtemps, en 2006 ?
En 2006, ça fait 10 ans.
12 ans. Est-ce qu'à l'époque vous entreteniez déjà des liens avec le Maghreb dont vous venez de nous parler ?
Ah oui, quand j'étais à la Dakar...
Donc à la direction de l'aménagement du territoire, aux fonctionnaires.
À la Dakar, on avait des relations avec les pays du Sud parce que, incontestablement, les élites du Sud nous demandaient des conseils en matière d'aménagement du territoire et nous avions, entre hauts fonctionnaires, des relations très fortes. Et nous travaillions déjà dans les années 1980-97-2000 sur le voisinage. Le voisinage était un élément stratégique de la réflexion.
Qu'est-ce que ça veut dire, le voisinage, en termes économiques ?
Ben, le voisinage, c'est le retour de la proximité. Voilà, j'aime beaucoup ce retournement de l'histoire. On a cru, avec la mondialisation, qu'il n'y avait plus de proximité, qu'on pouvait aller produire des coussins, des sièges au Vietnam, tout ça. Ouh là là, tout, depuis la crise de 2008, mais même avant... On assiste à un compactage des chaînes de valeur. C'est le retour de la proximité, la géographie et dans le voisinage. Mais le mot de voisinage, je suis interdit de prononcer ce qualificatif devant mes amis maghrébins et arabes parce que il comporte une notion de « tu n'es pas comme moi ». On est dans une relation centre-périphérie, dominant-dominé, tu n'es pas stratégique. Et je peux me passer de toi, tu n'es qu'un voisin.
Mais vous savez que sur RFI, ce mot de voisin a cours, puisqu'il y a une émission qui s'appelle 7 milliards de voisins, qui est animée par Emmanuel Bastic. Donc nous allons reparler de ce voisinage au cours de l'émission. Nous allons évoquer la situation économique dans les pays du sud méditerranéen, mais aussi dans les pays subsahariens, et aussi leurs relations, évidemment, avec les pays développés, ce voisinage que vous évoquez à l'instant, les pays européens en particulier. Jean-Louis Guigou, grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, et une première question de Julien Clémenceau.
Jean-Louis Guigou, vous êtes au cœur d'un événement qui aura lieu le mois prochain à Paris, qui s'appelle le Forum des Diasporas. De quoi s'agit-il exactement ?
Bah, écoutez, il s'agit de donner aux diasporas qui sont pleines de dynamisme, d'un enthousiasme, d'une passion. Je les ai vus à Bordeaux lors des journées nationales des diasporas. Mais les diasporas sont sous-utilisées, elles sont dispersées, elles sont parfois concurrentes et mal organisées. Et donc il s'agit de les rassembler pour essayer de voir dans quelle mesure, en grande partie d'un effort d'organisation, elles pourraient participer aux politiques publiques, recevoir des subventions et être des acteurs très puissants. Des acteurs... irremplaçable pour moi de la relation entre le Nord et le Sud.
Mais vous voulez leur distribuer des subventions, et vous savez que l'État est impécunieux en France.
C'est du côté de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe a mis en place un projet, un plan d'investissement extérieur, un PIE, qui est un projet pour moi considérable. C'est-à-dire que habituellement, la Commission européenne avait des politiques top-down et travaillait avec des ministères africains.
De haut en bas, hein, de haut vers le bas.
De haut vers le bas, c'est ça. Et travaillait avec l'ensemble des ministères africains, nord-africains. Ils se sont aperçus que les ministères, c'était peut-être pas le bon véhicule des politiques et qu'il fallait peut-être aller vers le secteur privé, vers les chefs d'entreprise, créateurs d'emplois. Et donc, ils ont mis en place ce plan d'investissement extérieur, c'est une révolution méthodologique. Partir des besoins et partir des entreprises. Et donc, voilà pourquoi les diasporas ont un rôle important à jouer comme intermédiaires, parce qu'elles connaissent nos méthodes, nous, Européens, elles connaissent aussi nos défauts, mais elles connaissent les codes pour pénétrer dans les sociétés africaines et elles connaissent les besoins. Et donc, parce que l'Europe modifie son attitude dans l'aide au développement, qui n'est plus une aide, mais l'aide au projet, les diasporas vont devenir essentielles. Elles sont sous-utilisées, mais pour être mieux utilisées, il faut qu'elles gagnent en compétences et en organisation.
Donc, elles sont mal organisées, mais ce qui se dégage pourtant, c'est qu'on a l'impression que les entreprises sont là pour se raccrocher un peu aux branches, qu'elles arrivent pour profiter de ce que peuvent faire les diasporas, surtout de ce qu'elles peuvent leur offrir, parce que les échanges et l'aide apportée par les diasporas aux pays d'origine, ce sont des sommes considérables, plus importantes que l'aide institutionnelle. Qu'est-ce que les entreprises ont l'impression qu'elles arrivent un peu au dernier moment pour profiter de la manne?
Oui, peut-être, mais de plus en plus, quand même, les entreprises françaises et européennes embauchent des Africains, des binationaux, et de plus en plus, on a la direction Afrique de Engie ou de Orange qui a changé, et de plus en plus, ces directions qui étaient dirigées par des Européens et des Français et qui étaient à la Défense, maintenant sont dirigées par des Africains.
À la Défense, vous voulez dire le quartier de la Défense?
Quartier de la Défense. Est de plus en plus dirigée par des binationaux, et vous allez voir, de plus en plus, les directions vont se trouver au cœur de l'Afrique. La direction Afrique de telle grande société sera à Abidjan, à Lomé, à Conakry, peu importe. Mais il y a une transformation profonde. Et là, les diasporas ont un rôle stratégique. Je suis fasciné. Je me suis interrogé sur le développement de l'Inde. Le développement de l'Inde, un des piliers de la transformation de l'Inde, de sa modernisation, ça a été le retour des diasporas qui étaient dans la Silicon Valley et qui ont créé Blingador et qui ont créé toutes les technopoles. Certes, le retour des diasporas ou le jeu des diasporas, un pied au nord, un pied au sud, c'est un jeu qui mérite d'être pensé, réfléchi, et ne pas être fondé uniquement sur les bonnes intentions. Voilà, il y a des méthodes, il y a des procédures, il y a une réflexion à mener. Et donc le forum du 22 du mois de juin consiste à rassembler 1 000-1 500 personnes essentiellement. C'est un forum des diasporas pour les diasporas. Et l'objectif, c'est de sortir avec des préconisations qui seront transmises, bien évidemment, au Quai d'Orsay, à la cellule Afrique de l'Élysée, qui seront servies au CPA, et qui seront
transmises... Le CPA, c'est le Conseil présidentiel.
Le Conseil présidentiel pour l'Afrique, c'est ça.
Mais près d'Emmanuel Macron.
Voilà. Mais qui seront, vont être transmises à la Commission européenne. Quand même, je me permets de souligner, parce que les diasporas, dans le deuxième pilier de mise en place du plan d'investissement extérieur
de Bruxelles,
hésite. Bruxelles avait l'habitude de travailler avec les ministères, c'est érodé. Maintenant, aller vers le privé, bon, ils hésitent. Et donc, ils ont mis en place des piliers. Le deuxième pilier, pour ne pas commettre trop d'erreurs, c'est celui de l'assistance technique. Et déjà, le directeur Afrique, le DG de la Direction générale du développement et de la coopération à Bruxelles, a réuni les diasporas européennes, les diasporas africaines en Europe.
Jean-Louis Guigou, qui dit diaspora dit migration, parce qu'avant d'être membre de la diaspora, on a quitté son pays d'origine. La grande affaire des relations entre l'Afrique et l'Europe, qu'on le veuille ou non en ce moment, c'est la question migratoire. Comment vivez-vous, vous, personnellement, la manière dont les migrants qui viennent d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne sont traités en ce moment en France ?
Je le vis assez mal. Je le vis assez mal parce que tout le monde le vit mal. Parce que le traitement dans le Nord-Pas-de-Calais, le traitement en Italie, en Lampedusa, c'est déjà trop tard. Il y a la masse, on n'arrive pas à trouver des solutions techniques, à avoir de bons renseignements. Et le président Macron a raison de dire qu'il faut descendre beaucoup plus bas. Je pense que moi, mon travail, c'est de voir dans quelle mesure le développement économique peut être accéléré. Voilà, c'est ça. La fréquentation que j'ai surtout des pays nord-africains et de l'Égypte, c'est que les migrations ne se font pas par plaisir. Tout ça sont des banalités. Les nord-africains sont bien plus à l'aise chez eux, en Afrique du Nord, que dans des banlieues parisiennes maltraitées, souffrant de racisme. Et donc, ils ne migrent pas par plaisir. C'est un arrachement, c'est une difficulté. Et donc, nous pensons que c'est IPMED, mais IPMED qui parfois est un peu la voix des chefs d'entreprise. Nous pensons que le développement de l'Afrique du Nord, on peut prendre cet exemple, dans la sphère européenne et le développement de l'Afrique du Nord comme pivot, comme levier entre l'Europe et l'Afrique, s'est inscrit dans l'histoire. Et donc, la question que je me pose, faudra-t-il 10 ans, faudra-t-il 15 ans, ou à force de rabâcher, de convaincre, de démontrer, ce processus peut s'accélérer. Nous disons parfois que IPMED est un accélérateur d'histoire. Nous sommes sur des tendances lourdes, et dont le développement...
Mais accélérateur d'histoire, pourquoi ? Comment ?
Accélérateur d'histoire parce que, en faisant prendre conscience que le capital est à l'œuvre, que l'intérêt des entreprises, c'est d'avoir un pied au nord en Europe et un pied au sud en Afrique du Nord et demain un peu plus bas. Nous sommes fascinés par des images et des visions. Le fait que l'Amérique s'est appuyée et s'appuie sur le Mexique et la Colombie. Rendez-vous compte que le Mexique, en l'espace de 12 ans, a créé 2 500 000 emplois, et que le Mexique est devenu la quatrième plateforme mondiale de production automobile et de camions. Et les Américains ne sont pas des tendres. Mais nous sommes aussi fascinés par le couplage qu'il y a eu entre l'Allemagne et les pays de l'Est. L'Allemagne s'appuie sur la Tchéquie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie. L'appareil de production s'est redistribué. Cette redistribution, nous sommes fascinés par le Japon et la Chine qui s'appuient sur les pays du sud-est asiatique.
Avant de nous intéresser à l'Afrique et à l'Afrique du Nord notamment, pour la France, est-ce que vous considérez que les migrants qui viennent actuellement, c'est plutôt une chance ou un fardeau pour la France et les pays européens en général ?
Mais il y a les deux. Excusez-moi, il y a les deux. Les gens qui viennent, ce ne sont pas les plus malheureux, les plus déshérités. Ce sont des gens qui ont un petit pécule, qui ont de l'éducation, qui savent prendre des risques. Les plus malheureux restent scotchés au territoire. Et donc, ceux qui prennent la route, comme le furent au XVIe, XVIIe siècle, les Irlandais et les Italiens, sont des gens éduqués, et donc c'est une chance. Mais c'est aussi un déficit de population éduquée pour les pays africains. Donc, nous, notre maître mot, c'est l'industrialisation de l'Afrique à partir de ses richesses naturelles.
Mais alors, je voudrais revenir sur ce que vous disiez il y a une minute, parce qu'on a tout à fait l'impression que c'est quand même très eurocentré. Vous dites, l'Allemagne s'est formidablement développée en s'appuyant sur les pays d'Europe de l'Est. Les États-Unis ont créé beaucoup d'emplois au Mexique, en Colombie, et donc les États-Unis se sont développés. Donc, Ce que vous nous dites, c'est que vous voulez que l'Europe, la France, les pays européens du Sud utilisent le Maghreb comme plateforme de développement pour eux.
Oui.
La France, pour elle, oui. Pas pour les pays du Maghreb.
Mais il y a les deux. À côté de ce concept de régionalisation, de compactage, d'un pied au nord, un pied au sud, il y a un deuxième concept que nous aimons beaucoup, qui s'appelle la coproduction. La coproduction. C'est-à-dire que les pays du Sud, à l'heure actuelle, n'ont pas besoin qu'on exporte des produits du Nord, souvent produits avec des immigrés africains. Les pays du Sud nous disent, si vous voulez vendre en Afrique et en Afrique du Nord, eh bien, il faut venir produire. Je cite souvent cet exemple. Il y a 3 ans, le président François Hollande était ravi parce qu'il avait vendu 2 milliards de TGV aux Américains. Et dans une réunion à l'Élysée avec une dizaine de chefs d'entreprise, Jean Kakoudiagou, qui était invité pour parler...
Jean Kakoudiagou, qui est le patron des patrons ivoiriens
et responsable d'une très grande entreprise d'assurance, dit au président, je vous félicite, mais monsieur le président de la République, vous avez vendu 2 milliards, mais la vérité, c'est que les TGV ne sont pas produits à Montbéliard. Les TGV vont être produits en Amérique. Les 2 milliards, c'est 2 milliards de redevances, de droits d'assistance. C'est du soft, c'est du tertiaire. Mais les ouvriers de Montbéliard ne verront rien. Pour l'Afrique, c'est pareil. Et j'aurais écouté le goût de dire au président, monsieur le président, nous ne sommes plus en Afrique des petits moineaux qui en ont absorbé des productions venant d'Europe et souvent produites avec des immigrés africains. Si vous voulez vendre des voitures et des TGV en Afrique, venez les produire. C'est ce que dit Kakoudiagou, c'est la coproduction. Et elle est stratégique. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise africains et les chefs d'entreprise du nord de l'Afrique recherchent de plus en plus des partenaires européens pour produire, faire des transferts de technologies, partager la valeur ajoutée et progresser dans la production et dans les niveaux de développement. Donc, il y a un intérêt à l'Europe incontestablement à jouer la complémentarité avec le Sud et jouer la proximité, mais le Sud a aussi intérêt à revendiquer la coproduction, parce qu'il a tous les marchés, 500 millions de ce marché européen. Et ne nous y trompons pas, les Chinois sont en train de s'implanter dans le nord de l'Afrique pour alimenter le grand marché européen.
Jean-Louis Guicou, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. L'une des pistes avancées par les gouvernements français en particulier, et puis on a un peu l'impression d'entendre ce son de cloche dans votre voix, c'est le co-développement qui est peut-être la même chose, je ne sais pas, que la coproduction. Le mois dernier, à votre place précisément, se trouvait dans ce studio, à ce micro, face à nous, Julien Clémenceau, moi-même, se trouvait Carlos Lopez, qui a jadis été le patron de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, un économiste très réputé, très connu. Et voilà ce que lui disait concernant le co-développement. Ça vaut le détour, écoutez.
Il n'y a rien de nouveau dans ces notions co-développement, partenariat, etc. Bon, les Allemands ont fait le compact G20, tout ça, c'est du baratin. En effet, depuis des décennies, on ne fait que recycler la même idée, qui est l'idée d'une relation où il y a donnant-donnant, mais au fond, c'est une relation où, contrairement à la perception de la plupart des Africains, et pour maintenir l'Afrique à l'écart des grands flux de l'économie mondiale. Ça ne permet pas le vrai développement industriel, ça ne permet pas la vraie croissance, etc. C'est un peu pour avoir sa tête un peu au-dessus de l'eau, c'est tout. Et je pense qu'il faut arrêter avec ces propositions qui ne sont pas vraiment très ambitieuses, au contraire de ce qu'elles donnent l'impression. À mon avis, ce qu'il faut, c'est de l'investissement dans les infrastructures, c'est de l'investissement dans le commerce, c'est de l'investissement comme font les Chinois. Donc vous voyez, dans une période de seulement 6 ans, les Chinois ont passé de 6e investisseur en Afrique pour premier, à la première place en termes de nouveaux investissements, et sont en train de chercher la première place en termes de stock d'investissement. Et ce n'est pas plus que 4% de la totalité de l'investissement chinois dans le monde.
C'était donc Carlos Lopez, Jean-Louis Guigou. C'est quoi? C'est un but contre vous, ça?
Ah non, non, non.
Non? Vous êtes d'accord?
Je pense que c'est la même chose.
Pourtant, on a l'impression qu'il dit le contraire.
Ah non, non, non. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut passer de l'aide à l'investissement. Qu'est-ce que je vous ai dit? La coproduction, c'est passer d'une aide publique à des ministères dont l'efficacité est douteuse et qui sont parfois gangrénés par un peu de corruption. C'est passer de cette aide publique à l'investissement privé. Donc je vous ai toujours dit, la coproduction, c'est la priorité à l'investissement. L'investissement, mais comment se fait l'investissement? Il peut se faire dans les infrastructures, oui, c'est bien, les routes, les aéroports, les hôpitaux, sans aucun doute. Mais le plus important, c'est l'investissement dans l'industrie. Il faut créer des emplois. Si on veut que la population africaine se développe, il faut qu'on ait des emplois. Et les emplois, c'est les entreprises. Vous avez ce chiffre de Jean-Michel Severino,
Jean-Michel Severino, ancien patron de l'Agence française de développement.
De l'AFD, à la tête d'un fonds d'investissement en Afrique. Et Jean-Michel Severino, dans son magnifique ouvrage sur l'Afrique entreprenante, démontre qu'on est devant une population très industrieuse, qu'il faut écarter tous les clichés des Africains sportifs, joueurs de musique, etc. Non, les Africains, dit-il, sont très très industrieux. Ils bricolent, ils innovent dans tous les garages. Ils sont très industrieux. Et donc, Médis, il donne ce chiffre. Il dit que d'ici 2050, on est bien sûr en 2020, c'est-à-dire dans 30 ans. Il faudrait créer en Afrique, pour absorber la vague des jeunes, 550 millions d'emplois. Le chiffre, c'est 18 à 20 millions par année. Très bien, 550 millions d'emplois. Au taux actuel de la croissance, et des créations d'emplois, l'Afrique ne peut absorber que 250 millions. Donc ça veut dire que d'ici 2050, il va y avoir 200 millions de jeunes assez éduqués qui n'auront d'autre choix que d'immigrer et d'être mobiles sur le continent africain ou de monter. Donc, la priorité, c'est pour l'Afrique de redevenir maîtresse de ses matières premières et les transformer sur place. Je suis horrifié par cet exemple que donne souvent Didier Côté. On parle du chocolat belge. Il n'y a pas de chocolat en Belgique.
On parle cacao, vous voulez dire?
Oui, il n'y a pas de cacao. On parle du chocolat suisse et du chocolat belge, alors qu'en fait, le cacao, il vient de Guinée et il vient de Côte d'Ivoire.
Du Ghana.
Et du Ghana. Ouais. Et regardez ce qui se passe aussi pour le pétrole. Un des principaux pays producteurs de pétrole brut, c'est le Nigeria. Et un des principaux... Mais il exporte du pétrole brut. Et quand vous êtes à Lagos, vous voyez tous les bateaux qui arrivent. Et il est le principal importateur de produits transformés et raffinés. C'est absurde. Donc, le maître mot, c'est investir, créer des emplois.
Question
donc,
de Julien Clemenceau.
Je suis tout à fait en phase avec Lopez.
Vous parliez d'un déficit de millions d'emplois, oui. Même de 250 millions d'emplois créés à l'horizon 2050. Une des petites musiques qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est le fait que l'entrepreneuriat... finalement pourrait sauver l'Afrique. Le fait que vous disiez les Africains ont envie d'entreprendre, sont industrieux, etc. Mais est-ce que dire oui, voilà, si les gens créent leur emploi, créent leur entreprise, on peut retourner la situation. Est-ce que c'est pas une vue un peu simple de la situation qui est complexe, un peu étroite? On disait tout à l'heure, il y a aussi les ponts, les routes, il y a beaucoup d'investissements à faire dans les infrastructures, par exemple.
Oui, mais je suis surpris par le bond extraordinaire réalisé par la Chine entre 1980, c'est un pays rural et agricole, et 2010, où la Chine est le premier pays manufacturier au monde. Comment, par quel miracle et par quelle méthode ils sont passés en 30 ans d'un monde rural et agricole à la première manufacture du monde? Il n'y a pas de miracle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une stratégie, produire à bas coût et exporter, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des zones économiques spécialisées et sécurisées, des grands parcs d'activités, 2000, 3000 hectares, énormes, ce sont les districts à l'italienne. C'est-à-dire qu'ils ont créé des parcs, Moi, j'appelle ça des clubs méditerranéens pour entreprises.
Ouais, à l'intérieur, on ne s'y repose pas tellement.
Non, ce ne sont pas des clubs de repos, d'accord. Mais en termes de bien-être, sous forme d'image, on met l'accent sur le financement des entreprises. Mais si une entreprise est financée, qu'elle va dans la banlieue de Bamako, de Lomé, de Conakry, elle est complètement isolée, il y a 70 chances sur 100 qu'elle périclite. Ce qu'ont fait les Chinois, c'est qu'ils ont pris toutes les industries d'un même secteur, la chimie, l'agroalimentaire, la sidérurgie, ils les ont mis dans des parcs d'activité où les économies externes, la formation professionnelle, la recherche, l'accès à l'énergie...
Alors, on a bien compris ça, votre idée, Jean-Luc Guigou. Vous voulez répliquer ça en Afrique ?
Ah oui, oui, oui.
Mais l'Afrique, c'est 54 États.
On a lancé le slogan là pour Bamako, pour le sommet de Bamako, créer 1000 zones industrielles sécurisées en Afrique. Quel est le grief que font les chefs d'entreprise européens, même les chefs d'entreprise africains? Ils disent nous avons le délestage électrique. C'est-à-dire on coupe l'électricité, on coupe l'énergie. Et puis deuxièmement, ils n'ont pas la formation professionnelle. Donc nous disons le développement industriel de l'Afrique passera par la création de zones économique, spécialisé et sécurisé. Ça fait le succès de la Chine. Et je me permets de vous signaler que les Chinois sont en train, l'Éthiopie, ils sont en train de rentrer et de créer des zones économiques spécialisées. Et ils vont vendre ce concept aux Africains.
Jean-Louis Guigou, vous êtes le grand invité de l'économie et RFI Jeune Afrique. Vous êtes très optimiste. Alors on va vous donner un peu d'optimisme musical avec un morceau de Voodoo Game.
La vie c'est bon, 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 mais pas trop quand même.
C'est bon, c'était un morceau de Voodoo Game dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Jean-Louis Guigou est le grand invité de cette émission et il répond à une question maintenant de Julien Clémenceau de Jeune Afrique.
La révolution tunisienne a été porteuse de nombreux espoirs et la communauté internationale s'est félicitée à juste titre de la capacité du pays à opérer une alternance de manière démocratique en 2014. quand le gouvernement mené par les islamistes des Narda a cédé la place à un nouvel exécutif formé par le président Essebsi. Mais au niveau économique, on peut dire que c'est un peu triste en Tunisie et que le pays patine.
Question d'autant plus d'actualité qu'il y a des élections demain.
Oui. D'abord, trois choses. Ce n'est pas un hasard si c'est la Tunisie qui, en 2011, 2012, 2013, a été le premier pays nord-africain à bouger et à vouloir adopter les normes internationales de développement, etc. C'est parce que ce pays, les femmes sont éduquées, les jeunes, etc. Et donc il y avait un niveau de conscience et de politisation très élevé et ils voulaient adhérer au club très bien. Maintenant, ça piétine, mais une des causes, de mon point de vue, sans trop s'immiscer dans leurs affaires, mais ils ont pris un système parlementaire comparable à celui de la 4e République chez nous.
Donc avec trop d'instabilité.
C'est trop de fragmentation, trop de commissions, trop d'instabilité. Et il ne fait aucun doute que tous les partis qui ont des idées Ennahda de blocage trouvent un malin plaisir. Le système est bloqué.
Et alors, Jean-Louis Guigou, pourquoi est-ce que la Tunisie accuse autant de retard, par exemple, dans ses programmes de développement par rapport au Maroc, dans ses relations avec l'Afrique subsaharienne? Est-ce que ça fait partie? Est-ce que la cause, c'est cette instabilité que vous évoquez?
Pourquoi la crise du retard? Un ministre tunisien m'a dit la chose suivante, que les premières années de la révolution, Ennahda avait transformé des chômeurs en fonctionnaires. C'est-à-dire que les ministères sont peuplés de gens, pour la plupart, incompétents. Le système est bloqué. Et le système est bloqué sur le plan administratif, il est bloqué sur le plan politique, le Parlement n'arrive pas et l'exécutif n'y arrive pas. Et donc, il reste la troisième force, et la troisième force, c'est celle des entrepreneurs. Je suis un habitué des forums en Tunisie. La dernière, c'était à l'occasion de la visite du président Macron. Les patrons sont là, les travaux que nous menons en Tunisie sont porteurs d'espoir en matière de coproduction. 85% des échanges extérieurs de la Tunisie se font avec quatre pays, la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne.
C'est trop peu ou c'est trop pour
non,
trop peu de pays?
C'est très bien. Ça veut dire que 85% du commerce se fait avec des chefs d'entreprise de ces quatre pays, et donc c'est avec ces quatre pays et avec les chefs d'entreprise de ces quatre pays que pourront se nouer des relations de coproduction et que les entreprises tunisiennes s'ouvrent à l'international différemment de ce qu'elles font maintenant et créent des emplois. On est en train de lancer avec le professeur Refers une étude sur ce qu'on appelle les gazelles en Tunisie. C'est-à-dire
Professeur Refers, qui est un professeur d'économie à Marseille.
D'économie à Marseille, qui est un grand connaisseur des économies du nord de l'Afrique. On est en train de lancer une étude pour identifier parmi 5 à 6 000 entreprises tunisiennes, quelles sont les 400 ou 500 entreprises qui, avec un effort de coproduction avec un partenaire allemand, italien ou espagnol, seraient capables de créer énormément d'emplois et donc de réduire le taux de chômage à l'heure actuelle. C'est un petit effort. Je resterai confiant sur la Tunisie. Parce que la société civile est très très avertie des enjeux.
Attends, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Le décalage dans la relation avec l'Afrique subsaharienne par rapport au Maroc. Comment l'expliquez-vous?
Le décalage, oui, c'est tout à fait compréhensible. Le Maroc, depuis qu'il a été depuis très longtemps, à la fois Hassan II et Mohamed VI ont toujours eu l'idée d'avoir les racines en Afrique et les feuilles en Europe. Et le Maroc, depuis qu'il a été exclu...
Mais est-ce que ça paraît pas être le bon équilibre
Si vous permettez, depuis qu'il y a eu l'annexion du Sahara occidental et le retrait du Maroc des instances de l'Union africaine, et de toute la concertation, le Maroc a mis en place avec toute son industrie, avec la Royal Air Maroc, avec l'OCP, avec Tijari Wafa Bank, avec énormément de sociétés, a mis en place toute une stratégie. On se retire sur le plan politique, mais on va pénétrer l'Afrique par l'économie. Et donc,
Le plan politique, ils sont revenus.
Et sur le plan politique, ça y est, la boucle est bouclée, ils sont revenus. Et le Maroc joue très habilement. Ça, c'est dans le nord de l'Afrique, il y a deux pays stratégiques dans le nord de l'Afrique. C'est à la fois le Maroc qui joue le rôle de hub pour l'Afrique francophone et c'est l'Égypte qui joue le hub pour l'Afrique anglophone. Et les deux se préparent et le fait qu'il y ait le Brexit, les Anglais vont revenir en masse. Ils commencent à revenir en masse, premier investisseur en Égypte. Et donc l'Égypte et le Maroc, par leurs relations, par le transport, par les zones de libre-échange, sont en train de se structurer au nord de l'Afrique.
Mais si on fait une comparaison entre le Maroc et... On poursuit sur la comparaison entre le Maroc et la Tunisie. Est-ce que ça semble pas être le bon équilibre d'être ce pont entre l'Europe d'un côté et l'Afrique subsaharienne? Une chose que n'a pas du tout opéré la Tunisie, puisqu'elle est attelée à l'Europe, vous le disiez, 85% de ses échanges avec 4 pays, et elle n'a pas ses racines africaines, et elle s'en est détournée. Et ça n'a pas l'air de beaucoup avancer.
Tout à fait, mais quand même, le Maroc, c'est bientôt 40 millions de population, la Tunisie, c'est des millions. Le Maroc, c'est une stratégie vers l'Afrique qui date de 20-30 ans. La Tunisie, elle est prisonnière de sa métamorphose permanente, et elle a trop de problèmes à régler, avec d'un côté les problèmes avec l'Algérie, de l'autre côté la Libye, le Sahara. Elle est prise par sa métamorphose et donc l'Afrique ne constitue pas à l'heure actuelle, même si beaucoup d'entrepreneurs tunisiens vont vers l'Afrique subsaharienne, c'est pas la priorité à l'heure actuelle, pas du tout.
Je voudrais que vous reveniez sur cette explication que vous aviez commencé à donner tout à l'heure sur le retour des investisseurs britanniques en Égypte à cause du Brexit. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'Égypte est en train de se positionner dans trois domaines pour devenir un hub très important. Elle se positionne d'abord sur le plan énergétique, avec la découverte des gaz dans la Méditerranée orientale. Les experts disent que d'ici une dizaine d'années, les découvertes de gaz et l'exploitation du gaz dans la Méditerranée orientale vont dépasser le Qatar. C'est énorme. Et deux usines de liquéfaction de gaz ont été mises en place, rénovées, avec l'accord de Chypre, l'accord d'Israël. Le deuxième hub, le hub gazier, le deuxième hub qui se prépare, c'est le hub de transport. Avec la rénovation du canal de Suez, pour l'avoir visité, c'est extraordinaire. Ce canal était avant un boyau, un tuyau. On rentrait d'un côté, on sortait de l'autre. Maintenant, ce canal, non seulement il a doublé, mais tous les 40 kilomètres, vous avez des zones d'activité industrielle et les Chinois qui s'installent, on ne parle pas trop. Mais le canal de Suez va devenir une zone de transformation et d'élaboration de produits manufacturiers énorme pour l'ensemble de cette partie de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et puis la troisième hub, et ça c'est Mounir Abdelnour, ministre, il y a 3 ans qu'il l'a mis en place, c'est la tripartite, c'est-à-dire que ils ont fait la plus grande zone de libre-échange du monde entier. C'est une zone de libre-échange qui rassemble 3 communautés qui préexistaient, et c'est une zone de libre-échange qui va de Alexandrie à Johannesburg, 650 millions d'habitants. Autrement dit, avec le gaz...
Ça, c'est pas les Égyptiens seulement.
Oui, c'est pas les Égyptiens, mais ça va attirer les industries lourdes européennes qui vont venir, et des industries lourdes, les industries de pétrochimie, les industries de chimie, etc., et de pharmacie vont trouver là à la fois une capacité de production, mais aussi une capacité d'exportation par les hubs de transport.
Jean-Louis Guigou, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Vous parlez libre-échange, zone de libre-échange, ça tombe bien, parce qu'on va parler un peu de Donald Trump et de ce qu'il peut inspirer à l'Afrique. Vous le savez, Donald Trump veut protéger les producteurs américains, en particulier d'aluminium et d'acier. Il a commencé à élever des barrières douanières qui visent pour l'instant principalement la Chine, mais l'Europe pourrait demain être affectée. Cette politique, on l'entend souvent, est l'objet de très vives critiques un peu partout. L'économiste congolais Claude Kabemba, qui dirige l'Observatoire de ressources naturelles d'Afrique australe à Johannesburg, était tout récemment de passage à Paris, et à ses yeux, la politique de Trump pourrait inspirer l'Afrique.
Ce qui est intéressant sur ce que le président Trump dit sur cette augmentation de taxes, surtout sur l'acier, c'est quand on ramène ça sur le continent africain. S'il y a un continent qui a besoin de l'acier pour se développer, c'est l'Afrique. Mais il se fait que l'Afrique a des problèmes de mettre en place une industrie d'acier pour s'approvisionner. En ce moment-là, l'Afrique importe de l'acier, il a de la matière brute qui ne peut pas transformer, parce que quand elle commence à transformer ça et à contrôler l'accès à ce produit, c'est du protectionnisme pour le reste du monde, pour l'Europe, pour les États-Unis. Mais quand Trump prend une décision dans l'intérêt des États-Unis, malgré qu'il y a des revendications, on sent qu'à un certain moment, c'est toujours important de réfléchir sur l'intérêt national. Et prendre une décision ferme, il a vite vu que ce n'était pas possible de maintenir cette... Il y a une pression de partenaires de l'Europe, il y a toujours une pression de la part de la Chine, il y a eu pression du Canada, de l'Australie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette conversation. Qu'est-ce que l'Afrique peut apprendre d'une décision si ferme d'un pays comme les États-Unis, qui veut protéger son marché, qui veut maximiser les bénéfices et qui veut construire l'économie américaine.
Claude Kabemba, donc patron d'un observatoire des ressources naturelles d'Afrique australe. Jean-Louis Guigou, vous lui répondez quoi ? Il a raison, il a tort ?
Il a parfaitement raison. Son raisonnement est justifié. Le libre-échange qui nous a amené son lot de succès, de bonheur, mais aussi son fardeau de populisme et de désindustrialisation. Ce libre-échange lié à la mondialisation a fait son temps. Nous disons, nous, qu'à côté de la mondialisation, il y a la régionalisation, c'est-à-dire des pays voisins qui se mettent ensemble. L'ALENA, le Mercosur, l'ASEAN. C'est ça, la régionalisation. C'est le retour dans la proximité avec une perspective que, ensemble, que, comme les pays européens, on arrive à mettre en place des régulations. Parce que la régulation n'est pas possible au niveau mondial. Très bien. Donc, Trump attaque le libre-échange. D'accord, c'est à la fois regrettable, mais c'est dans l'air du temps. Moi, ça ne me gêne pas. Et si les Africains disent, si Trump commence à se protéger, nous, on ne voit pas pourquoi on se protégerait. Je trouve qu'ils ont parfaitement raison. Je porte à votre connaissance que dans la prospective à 15-20 ans du commerce mondial, les économistes disent la chose suivante. Ce qui va se développer, c'est le commerce sud-sud. Ce qui va se stabiliser, c'est le commerce nord-sud. Et ce qui va décliner, c'est le commerce nord-nord. Le commerce nord-nord est trop sophistiqué, trop cher. C'est la raison pour laquelle la zone de libre-échange entre l'Europe et l'Afrique ne voit pas le jour. Parce que c'est ni l'intérêt de l'Amérique, ni notre intérêt. Mais revenons sur l'intérêt des Africains. Si le Sud-Sud se développe, alors leur intérêt, c'est incontestablement de demander au Nord de transformer les accords de libre-échange. Et sinon, de se mettre en situation de fermeture ou de protection des droits de douane. Je pense qu'il y a une opportunité, ce sont les accords de post-Cotonou, Cotonou va être renégocié.
Mais justement, donc Cotonou va être renégocié. Cotonou a été signé en 2000. Elle intéresse les pays ACP, c'est-à-dire Afrique, Caraïbes, Pacifique. Ça a créé pendant deux décennies le cadre des relations, de la coopération, mais politique et économique entre les États de l'Union européenne et 79 États, dont 48 Africains. Quel bilan on peut en faire, vu d'Afrique, il est assez mince au niveau des échanges économiques. On n'a pas vu tant d'entreprises africaines pouvoir se développer sur le marché européen.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les résultats sont minces. Je viens de finir une étude où nous avons comparé les accords de l'ASEAN, de la Chine, du Japon avec les pays du Sud-Est asiatique, les accords de l'ALENA et puis les accords de Cotonou. Il ne fut aucun doute que les accords les plus performants à l'heure actuelle, c'est les accords que les Chinois ont mis en place au sein de l'ASEAN avec les pays du Sud-Est asiatique, Malaisie, Philippines et Indonésie. Parce que il ne s'agit plus de commerce. Dans Cotonou, il y a trop de commerce et pas assez de production. Vous voyez, donc tout arrive. Quand Lopez dit il faut passer de l'aide à l'investissement, il a raison. Quand nous disons il faut passer du commerce à la redistribution de l'appareil de production, ça va tout à fait dans le même sens. Et donc, notre option à nous est assez claire. Il faudrait que les accords de Cotonou portent plus sur l'intégration en profondeur entre l'Europe et l'Afrique que le seul négoce et le commerce. Dans le commerce, ils sont perdants. Ils sont perdants. On leur demande de baisser les droits de douane, on exporte nos produits et en contrepartie de quoi on pompe leurs matières premières pour les transformer à l'extérieur et on leur vend les produits. On est dans un cercle vicieux et pour pallier, on fait de l'aide. Les Africains, et je pense à Dana qui est rentré. Le président du Ghana. Nana Addo, qui recevant le président Macron le 6 décembre, lui dit « Mais arrêtez avec l'aide. Si ça avait marché, on le saurait. Ça fait 60 ans que ça dure. Vous ne faites que compenser les plaies que vous avez vous-même ouvertes. »
Mais vous dites aux ONG qui se battent pour plus d'aide, votre combat est périmé ?
Non, je suis pas aussi direct. Mais je dis, Mais je dis, à côté de, il y a des ONG qui font leur boulot, d'accord, très bien. Je dis simplement que ce qu'il y a d'important, on en a parlé au début de l'émission, c'est par exemple le rôle des diasporas pour contribuer à l'investissement et à la création d'entreprises. Moi, je rêve de créer une ONG qui serait Diaspora sans frontières, comme on a Médecins sans frontières. Et que les gens de la diaspora disent « Je suis libre un mois par an, je suis libre 15 jours tous les trimestres et je peux aller en Afrique et je peux contribuer dans des lycées, des collèges, des zones industrielles, etc. etc. » C'est ça dont on a besoin, l'investissement humain et l'investissement financier dans des créations d'emplois et de valeurs et dans des infrastructures.
Jean-Louis Guigou, merci d'avoir accepté l'invitation de RFI de Jeune Afrique. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez nous réécouter sur RFI.fr ou via l'application Pure Radio ou encore sur le site de Jeune Afrique. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.